RFI Midi, toute l'actualité, Florent Guignard.
Huawei, le géant chinois des télécoms, riposte. Huawei affirme que les États-Unis sous-estiment sa force. À l'égard, un message adressé aux États-Unis après des sanctions annoncées par Donald Trump, après aussi la décision de Google de bannir Huawei à l'avenir. Alors Washington, depuis, a accordé un délai de 3 mois avant que toutes ces sanctions n'entrent en vigueur. Bonjour Jean-François Huchet.
Bonjour.
Vous présidez l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales à Paris. Vous êtes spécialiste de l'économie chinoise. Dans ces déclarations de Huawei, du patron de Huawei, est-ce qu'il y a une part de bluff ?
Alors, il est difficile de savoir. Je pense que Huawei se prépare déjà depuis très certainement quelques mois, peut-être quelques années, à entrer dans une relation difficile avec les États-Unis, puisque Huawei a vu ses activités fortement limitées sur les infrastructures aux États-Unis déjà depuis plusieurs années. C'est quelque chose de nouveau effectivement sur la téléphonie mobile, mais l'épisode que nous avons eu il y a quelques mois avec l'autre entreprise ZTE pour laquelle les États-Unis ont à un certain moment donné, on va dire, coupé l'approvisionnement sur des puces électroniques de très haut niveau, leur a fait très peur, et donc on peut envisager effectivement que Huawei ait commencé à se préparer. Ceci étant dit, je pense que si dans un cas où effectivement les sanctions seraient confirmées d'ici 3 mois, il serait très certainement très difficile pour Huawei véritablement de pallier à tout l'approvisionnement, que ce soit en logiciel ou que ce soit effectivement en matériaux sur les puces électroniques de très haut niveau. Donc très certainement, il y a un coup de bluff, il y a une volonté très certainement aussi de pousser les négociateurs côté chinois et américain à revenir vers quelque chose qui serait, on essaye de se mettre d'accord sur la négociation commerciale.
Et juste sur la partie smartphone pour Huawei, le fait de ne plus pouvoir utiliser Google et le système d'exploitation Android, qui équipe à peu près tous les téléphones dans le monde à part ceux d'Apple. Est-ce que ça veut dire que ce sera la fin des activités internationales de Huawei dans ce secteur des téléphones portables pour les particuliers ?
Bah écoutez, ce serait véritablement une difficulté très importante pour Huawei en dehors de la Chine, bien sûr, parce que, comme vous l'avez dit, Google équipe tous les téléphones, et en plus, il y a une mise à jour constante des programmes qui permettent de rester à jour pour Huawei. Donc, c'est effectivement une pression énorme. Mais que vous alliez du côté du software sur les logiciels ou du côté du hardware sur les puces qui sont de plus en plus performantes, on voit bien que les États-Unis sont en train de faire monter la pression pour forcer la Chine à lâcher du lest sur d'autres domaines dans cette négociation commerciale.
On est clairement, selon vous, dans une bataille psychologique, finalement. C'est un moyen de faire pression, de faire céder les Chinois. Est-ce que les États-Unis, quand même, n'ont pas un petit peu, ne risquent-ils pas de perdre un peu des plumes dans cette histoire ? On pense notamment aux entreprises américaines qui fournissent Huawei et qui se fournissent aussi en matières premières chez les Chinois.
Tout à fait. On sait qu'un certain nombre de grandes entreprises, style Qualcomm, par exemple, fournissent justement ces puces électroniques via des sous-traitants taïwanais, coréens, japonais, aux Chinois. Et donc, leur chiffre d'affaires est très important avec les firmes chinoises et sur le marché chinois. Donc, ils ont beaucoup à perdre et eux font pression sur le gouvernement américain pour qu'on aboutisse à effectivement des négociations et à un accord avec la Chine. Par contre, vous avez des entreprises qui ont moins à perdre et qui estiment que, effectivement, le gouvernement américain doit être plus dur dans ses négociations. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de déficits commerciaux, de problèmes de réciprocité dans les investissements. Et là, aujourd'hui, il y a, je crois, depuis quelques années, un durcissement de l'administration américaine. C'est pas uniquement un problème de Donald Trump. Il y a un vrai durcissement avec une Chine qui veut se positionner de manière très forte à l'international. Et donc, ça fait réagir les États-Unis, mais aussi peut-être un peu l'Europe.
Vous diriez qu'il y a de la part des États-Unis une volonté de bloquer la progression technologique et économique de la Chine, qui est devenue un concurrent sérieux.
Oui, bien sûr, et toutes les armes sont bonnes pour les États-Unis. On le voit sur la téléphonie 5G, c'est des problèmes de standards internationaux, et les États-Unis veulent effectivement bloquer, mais comme ils peuvent le faire aussi avec d'autres entreprises, hein, il faut pas être naïf sur ce plan. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, la Chine ne joue pas forcément non plus toutes les règles du jeu, je dirais presque tacitement acceptées par tous les pays également. Donc, le problème de la réciprocité en matière d'investissement, c'est que vous avez des entreprises chinoises qui peuvent se permettre de faire des choses sur les marchés extérieurs, alors qu'elle interdit sur son propre marché aux entreprises étrangères de le faire. Donc, ces questions-là sont quand même des questions au moment où la Chine investit plus de 100 milliards de dollars par an à l'étranger, se posent de manière de plus en plus importante, alors qu'il y a 20 ans, la Chine était essentiellement en train d'impacter uniquement sur son marché intérieur et pas sur les marchés extérieurs et pas sur les domaines de réciprocité en matière d'investissement. Donc on a une transformation des problèmes.
On est passé d'une économie de main-d'œuvre à une économie développée, concurrent direct des États-Unis. Est-ce que pour les Américains, il n'y a pas aussi un constat d'échec? Vous parliez des règles économiques que les Chinois ne respectent pas. On a porté le libéralisme économique en Chine, mais finalement, le libéralisme politique, lui, n'a pas du tout percé du côté de Pékin.
Alors, on a ça, bien sûr, sans tomber sur d'un point de vue purement politique, où là, effectivement, on s'est répété un mantra depuis 40 ans en disant que si on allait aider la Chine sur le plan économique, elle allait se démocratiser sur le plan politique. On constate que c'est pas du tout le cas. Ça, je pense que c'est un constat d'échec vraiment total. Mais sur le plan plus économique, la Chine nous questionne aussi du point de vue de la politique industrielle, et notamment nous, Européens, parce que les États-Unis, on le voit, ont les moyens de contrôler leur marché intérieur beaucoup plus que l'Europe ne le fait, où on est resté pendant très longtemps sur une très grande naïveté à l'égard de la Chine, voire même à l'égard des États-Unis, et on est devenu hyper libéral et on se refuse à avoir une politique industrielle ou de protection du marché intérieur et de nos producteurs. Donc là, la Chine nous apprend quelque chose et fait en sorte que nous puissions peut-être un jour réagir et être un peu moins naïfs en tous les cas sur toutes ces questions.
Merci beaucoup Jean-François Huchet pour votre analyse. Je rappelle que vous dirigez l'Institut national des langues et civilisations orientales.